Afrique, les infos à Washington.
Eric Manelakizato, retour avec vous. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Au premier jour de la visite du secrétaire d'État Anthony Blinken à Pékin pour apaiser les tensions, Washington a salué ce dimanche des discussions constructives et honnêtes et s'est félicité de l'accord donné par le chef de la diplomatie chinoise à une visite prochaine à Washington. Cette visite de deux jours est le premier déplacement d'un chef de la diplomatie américaine sur le sol chinois en près de cinq ans. Les deux hommes ont eu des entretiens francs, substantiels et constructifs, a déclaré le porte-parole du département d'État au terme de l'entretien. M. Blinken a notamment souligné l'importance de la diplomatie et du maintien de canaux de communication ouverts sur l'ensemble des questions afin de réduire le risque de perception erronée et d'erreur de calcul, a-t-il précisé. Les Maliens votent par référendum sur un projet de nouvelle constitution ce dimanche. Ce premier vote depuis l'avènement de la junte il y a trois ans a valeur de test, mais la crainte des attaques djihadistes et les désaccords politiques ont empêché sa tenue dans plusieurs localités, notamment dans le nord. Environ 8,4 millions de Maliens sont appelés à dire oui ou non au texte que leur soumet l'autorité militaire et qui renforce les pouvoirs du président, mais que conteste une opposition hétéroclite, notamment d'influentes organisations religieuses, hostiles au maintien du principe de laïcité de l'État. Des familles éplorées enterrent ce dimanche leurs morts dans l'ouest de l'Ouganda, tandis que d'autres recherchent désespérément des proches portés disparus après le raid des djihadistes dans un lycée qui a fait au moins 41 morts pour la plupart des élèves. Le président Yoweri Museveni a qualifié dimanche l'attaque d'acte désespéré, lâche et promis d'éliminer les responsables de cet assaut sanglant. Les victimes ont été attaquées à coups de machette, abattues par balles ou brûlées vives lors de ce raid. Le pape François a prié dimanche pour les jeunes étudiants victimes de cette attaque brutale qui a choqué l'Ouganda et suscité de vives condamnations internationales. Sept jeunes filles âgées de 8 à 12 ans sont mortes jeudi dans le naufrage d'une pirogue les conduisant à l'école dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, disent des services de secours et des médias locaux. Le drame s'est déroulé près d'Abouasso, à une centaine de kilomètres à l'est d'Abidjan, près de la frontière du Ghana. La Tunisie a protesté dimanche contre l'entrée par effraction de groupes armés et le pillage de la résidence de son ambassadeur dans la capitale soudanaise Khartoum. Pour le ministère des Affaires étrangères, il s'agit d'une violation flagrante du caractère sacré des sièges des missions diplomatiques. Le ministère a souhaité que les auteurs de ce pillage soient traqués et poursuivis en justice. En revanche, plusieurs centaines de partisans du Front de salut national, FSN, le principal bloc d'opposants au président tunisien Kais Saied, ont manifesté dimanche pour réclamer la libération d'une vingtaine de personnalités arrêtées depuis février pour complot contre la sécurité de l'État. Plus de 10 000 migrants ont été détectés traversant la Manche sur de petites embarcations depuis le début de l'année, selon les chiffres publiés ce dimanche par le ministère britannique de l'Intérieur qui lutte sans relâche contre ces traversées illégales. Sept bateaux transportant 374 personnes ont atteint le littoral britannique sur la seule journée de samedi, selon le bilan quotidien publié par le gouvernement. Sur l'ensemble de l'année 2022, plus de 45 000 traversées avaient été enregistrées en record. La lutte contre l'immigration illégale est une des priorités de la majorité conservatrice au pouvoir, qui peine toutefois jusqu'ici à décourager les candidats malgré un durcissement de sa politique. L'année dernière, le gouvernement britannique a fait passer une loi pour l'instant bloqué par la justice pour envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.
tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce dialogue des religions. Ce soir nous parlons de la vie et de l'héritage de Pat Robertson, le célèbre télévangéliste conservateur américain décédé à l'âge de 93 ans. Au cours de sa carrière, Pat Robertson a été une figure controversée mais incontournable de la télévision religieuse. Il a fondé la chaîne Christian Broadcasting Network CBN en 1961 et a animé une émission quotidienne très populaire appelée The 700 Club. Il laisse derrière lui un héritage qui a marqué profondément la télévision religieuse aux États-Unis, en Afrique et ailleurs dans le monde, sans oublier son impact significatif sur le paysage politique américain. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Docteur Nathalie Nyamoya a suivi fidèlement les émissions de Pat Robertson depuis l'Afrique. Elle vit actuellement au Québec au Canada. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Eric. Bonsoir Eric.
Je suis en ligne avec le professeur Mohamed Mbodj, professeur d'histoire à Manhattanville College. Professeur Mbodj, bonsoir.
Bonsoir.
Voudriez-vous nous parler de l'importance de Pat Robertson en tant que télévangéliste conservateur américain? Quels aspects de sa vie et de son travail l'ont rendu si influent?
Pat Robertson est très emblématique d'une certaine façon de l'Amérique de la deuxième moitié du XXe siècle, d'origine modeste et qui parvient à devenir très puissant et très influent, et riche aussi, en utilisant un moyen moderne que la religion avait un tout petit peu délaissé, dans ce cas-ci, donc la télévision, et qui finalement, dans un troisième mouvement, est devenu très important sur l'échiquier politique américain, en mobilisant les voix conservatrices chrétiennes en faveur du parti républicain, en fait même en les incorporant, disons, dans ce qu'on peut appeler la base du parti républicain. Donc, d'une manière générale, voici les trois grands traits qu'on peut retenir de cet homme et de sa trajectoire et de son influence dans la politique américaine dans la deuxième moitié du XXe siècle.
Et ses enseignements portaient sur quoi?
Alors, son enseignement, c'est bien entendu se référer à la Bible, se référer, avant de prendre une décision politique, en particulier lorsqu'il s'agit de voter, de se référer à son pasteur local, de se référer à ce qu'on peut appeler une certaine ligne chrétienne de fonctionner et d'envisager les affaires de la République, et donc de fonctionner un tout petit peu dans ce cadre-là et de s'y inscrire, c'est-à-dire de rester insensible à ce qu'on peut appeler l'actualité d'une certaine façon, ou en tout cas ce que d'autres politiciens peuvent essayer de vous convaincre. Et fondamentalement, cette façon de voir, à la limite, de créer ce que beaucoup de sociologues ont découvert aux États-Unis, que quelquefois les gens, sous des raisons religieuses, peuvent même voter à l'encontre de leurs propres intérêts, tant qu'ils arrivent à justifier leur vote, leur prise de position, leur soutien par rapport à leur pratique religieuse.
Et comment évaluez-vous l'héritage de Pat Robertson en tant que fondateur de la chaîne CBN et animateur de l'émission The 700 Club? Et en quoi cette émission a-t-elle contribué à façonner le paysage de la télévision religieuse aux États-Unis, même au-delà?
D'abord, c'était de pouvoir de créer une alternative à la programmation régulière, disons profane ou ordinaire, où l'actualité est branché sur le politique, l'économie, les relations internationales et autres. Donc, de créer une alternative qui ne privilégie pas ces lignes dans l'actualité, même si, effectivement, ces programmes religieux aussi commentent forge une opinion par rapport à l'actualité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de créer une ligne de communication moderne à la télévision en utilisant peut-être les techniques et peut-être le livre le plus vieux au monde, la Bible. Et donc, un tout petit peu cette sorte de fusion du plus vieux au plus récent et de faire en sorte qu'on puisse faire du neuf avec du vieux. Et donc, couper un peu l'herbe sous le pied de la tyrannie de ce qu'on peut appeler les dernières nouvelles, l'évolution de telle crise, etc., etc. Et de faire en sorte qu'il y ait une sensibilité un peu plus stable dans l'auditoire, une alternative à ce qu'on peut appeler le bruit et la fureur de l'actualité politique, économique et autres, et donc de fournir une sorte de cocon stable pour les chrétiens d'envisager l'actualité et leur avenir en se protégeant un tout petit peu de l'actualité.
Nous allons avoir le professeur Mbodge dans la dernière partie de cette émission. Nathalie, je viens vers vous. Merci d'être là avec vous. Nathalie, je voudrais discuter de votre connexion avec Pat Robertson et de l'influence de la chaîne CBN dans votre vie. Alors, voudriez-vous nous parler de votre expérience en tant que téléspectatrice des émissions de Pat Robertson et de la chaîne CBN, Nathalie?
Bonjour Eric, encore une fois, et bonjour à tout le monde. J'ai commencé à écouter ou à regarder plutôt les chaînes CBN, les chaînes chrétiennes, et en particulier aussi le Seven Hand Club de Pat Robertson, parce que j'étais à une période où je commençais à découvrir Dieu et j'avais besoin de certaines orientations spirituelles et surtout d'entendre différentes personnes afin de choisir de prendre ce qui est bien, ce que j'estimais nécessaire dans ma vie. Et c'est vrai que TBN m'a donné une panoplie quand même de personnes qui pouvaient enseigner. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec le 700 Club, c'est que Pat Robertson avait un style assez calme, peut-être dû au fait qu'à cette époque, il était déjà âgé, parce que j'étais une adolescente. Donc j'aimais beaucoup son côté introverti, assez calme. Et puis personnellement, ça m'a aidé à apprendre à connaître l'anglais. Donc c'est vrai que c'est avec TBN que j'ai essayé d'affiner ma connaissance en anglais. Mais pour ce qui est vraiment de Pat Robertson, j'ai beaucoup aimé son style d'échange, surtout quand il était en train de faire leur émission. Et avec la personne avec qui il animait l'émission, Terry Musen, qui était une femme. Donc c'est toujours quelque chose de positif de voir une femme, parce qu'on avait toujours l'habitude de voir des hommes télé-évangélistes, mais de voir une femme à côté d'un homme aussi influent que Pat Robertson, et qui puisse échanger, discuter de la parole de Dieu et bien sûr y inclure des témoignages. Ça, pour moi, c'est quelque chose ça a été quelque chose de très important.
Donc c'est quelqu'un qui a eu de l'impact sur votre vie personnelle et spirituelle?
Absolument, absolument, parce que actuellement, c'est vrai que j'anime des émissions et ce côté interview et puis travail à deux, c'est quelque chose qui m'a rejoint et que j'utilise aussi avec mon mari lorsqu'on fait des genres d'émissions, d'échanges. Je trouve que c'est très riche, au lieu que ça soit une image d'une seule personne, une sorte de deuxième prédication de dimanche, mais qu'on ramène à la télé. Moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup béni.
Et il y avait aussi d'autres chrétiens, des amis à toi qui suivaient CBN aussi.
Pardon?
Il y avait d'autres qui suivaient la chaîne CBN.
Oui. Il y a toujours eu beaucoup de gens qui ont suivi CBN. C'était, en tout cas, à mon époque, il y a une vingtaine d'années, entre 15 à 20 ans, il y a cela, beaucoup de gens suivaient TBN et on avait besoin d'être nourris spirituellement. Donc on y trouvait quand même pas mal de nourriture, les uns un peu plus durs que d'autres, mais c'était quand même intéressant de pouvoir s'inspirer de ça. Beaucoup de gens, en tout cas au Burundi à mon époque, suivaient TBN.
Et comment cela a-t-il commencé avec vous?
D'abord, c'est vrai que je suis allée avoir la grâce de pouvoir avoir les TBN, donc d'avoir un bouquet financièrement qui pouvait te permettre de découvrir les chaînes chrétiennes. On avait eu la grâce de pouvoir avoir un bouquet qui me permettait de regarder cela à la maison. Mais c'est dans ma quête, quand on entend que quelqu'un vous dit tiens, il y a des chaînes, il y a des émissions, ou il y a même des chansons chrétiennes, on est avide de connaissances spirituelles, on veut rechercher. Je pense que c'est du bouche à oreille. Quand on découvre que tiens, à la maison, on avait une manne spirituelle au travers de la télé, je pense que c'est comme ça qu'on a souvent découvert les uns chez les autres. Tiens, regarde, cette chaîne, elle existe. C'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on s'est influencé, disons.
Et quels sont, disons, les messages ou les enseignements de Pat Robertson qui ont résonné particulièrement avec vous?
Moi, je dois vous avouer que c'était plutôt les témoignages que j'écoutais. J'ai trouvé que la manière dont on apportait les témoignages, c'était quelque chose de très intéressant. J'ai toujours eu beaucoup de peur de quand je voyais des gens qui allaient donner leurs témoignages dans les églises. Des fois, c'était un peu trop extraverti. Des fois, on se posait la question, est-ce qu'il n'y a pas plus d'émotion qu'autre chose? Mais je trouve que quand dans Seven Hundred Club, c'était très équilibré. Personnellement, je trouvais ça très équilibré. Et ça me rejoignait vraiment.
Donc vous avez vécu des moments ou des histoires spécifiques qui vous ont touché de manière significative?
Oui, beaucoup. Même si je peux ne pas me rappeler de façon particulière, parce que dans Seven Hundred Club, il y a eu beaucoup de témoignages. Il y a vraiment eu beaucoup de témoignages. Et ça rejoint aussi les moments où vous avez envie d'entendre des témoignages et des saisons où on a besoin d'écouter des témoignages parce qu'on est dans une saison un peu aride spirituellement, on se sent un peu seul, on se dit est-ce que Dieu est actif ou pas. Et quand on écoutait Seven Hundred Club, on était quand même assez vraiment béni.
En quelques secondes, Nathalie, est-ce que sa vision conservatrice a eu un impact durable sur toi, sur vous?
Moi, je n'allais pas vraiment dans ce qui est politique. Sincèrement, sur un côté conservateur qui pouvait agacer les gens, non. Mais on se rejoignait sur pas mal de thèmes spirituels surtout. Spirituels et surtout sa manière d'apporter ses pensées. Il était très calme. Il était introverti. Il avait une manière d'amener ça assez doucement et ça me rejoignait. Que l'on soit d'accord avec lui ou pas, il avait au moins la classe de dire ce qu'il pensait.
Merci Nathalie pour votre témoignage sur votre connexion avec CBN et l'évangéliste Pat Robertson. Merci beaucoup pour votre participation.
J'essaie aussi produit pour ces crises d'opposition souvent extrême en influençant son public et l'opinion publique américaine jusqu'à contribuer à la polarisation politique aux États-Unis.
Ah oui, tout à fait. Par exemple, son utilisation fréquente de l'idée que Dieu n'est pas content des Américains, c'est pourquoi il y a eu par exemple l'attaque de 9/11, donc du 11 septembre, que l'épidémie donc du sida a été créée. C'est une sorte de punition divine descendue par Dieu sur une société qui ne lui répond plus ou qui ne l'écoute plus. Oui, ça c'est évidemment très choquant d'une certaine façon. Et même les détériorations climatiques, Katrina et d'autres cataclysmes de ce genre, où il y allait directement, souvent à vif. Et dès les premiers moments où ces phénomènes se sont produits, pour donner une sorte de causalité religieuse, en disant évidemment que la solution c'était de retourner à Dieu, et que si on retourne à Dieu, Dieu va nous pardonner, va rarifier ce genre d'événements, etc., etc. Donc il y a ce côté-là qui est un peu choquant pour ses contemporains à l'époque. Mais il y a aussi d'autres positions assez inattendues. Par exemple, c'est quelqu'un qui, sur le plan des relations raciales, est assez libéral. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais montré un élément de racisme dans sa prêche, dans sa propagande, au contraire d'ailleurs, et qui s'inscrivait un tout petit peu même à la limite dans ce qu'on peut appeler comme une sorte de successeur chrétien du Civil Rights Movement, donc du mouvement des droits civiques, pour faire en sorte qu'il y ait un progrès aussi pour les Noirs américains.
Donc, malgré les controverses entourant sa personne, ça c'est un aspect de son héritage qu'il est important de mettre en avant et de garder d'une manière durable.
Oui, certainement dans l'échiquier politique américain, certains ont dit pire et ont fait pire. Et en quelque sorte, il a essayé d'évoluer un tout petit peu pour être le grand-père grognon contre lequel quelquefois on rouspète, mais au fond qu'on, en fin de compte, qu'il dit une vérité ou pour laquelle il ne va pas bénéficier personnellement. Évidemment, il a essayé d'être candidat, il a même été candidat donc à la présidence, mais ça n'a pas marché. Et il s'est un peu retiré de ce qu'on peut appeler l'actualité politique frontale, et en essayant plutôt de jouer les soutiens à des gens qu'il aurait été capable d'influencer, auprès desquels il aurait été capable d'exercer une certaine influence, plutôt que d'avoir lui-même à exercer un quelconque pouvoir politique.
Comme Donald Trump.
Un peu comme Donald Trump, avec cette grosse différence, bien entendu, que Donald Trump a été élu et donc a été un leader politique. Mais influencer des gens comme Donald Trump, oui, certainement. Encore que le.
Il a soutenu.
Penser que, oui, il a soutenu Donald Trump et dans un contexte où, pratiquement, disons, il n'avait pas tellement le choix. C'était le candidat républicain. Mais je ne suis pas convaincu que Donald Trump ait été son candidat de choix, parce qu'après tout, il y a quelque chose dans l'approche et dans la vie de Robertson, en particulier la fidélité à sa femme, un père de famille très rangé, qui n'a pas de frasque, en tout cas pour lequel on ne connaît pas de frasque. Là, je suis sûr que c'est quelque chose qui le dérangeait avec Trump, mais il n'avait pas le choix, puisque ils avaient rangé ses troupes chrétiennes, évangéliques chrétiennes, du côté du Parti républicain, et donc il était obligé de soutenir le candidat du Parti républicain, sans aucun doute.
Il a désavoué plus tard quand Trump refuse de reconnaître l'issue des élections.
Effectivement, donc il a su garder cette liberté, donc encore une fois du patriarche qui sait dire la vérité, même si au risque de mécontenter certains de ses administrés, effectivement, il n'a pas du tout apprécié donc l'attitude de Trump après sa défaite électorale, et il l'a dit de façon très claire et très nette et très crue. Et donc de ce point de vue-là aussi, c'est un côté qui joue en sa faveur dans l'héritage qu'il laisse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable quelquefois de s'arrêter au milieu de la guerre idéologique pour dire fondamentalement des vérités qui sont acceptées par tous et qui n'ont pas besoin d'être anointées de ce qu'on peut appeler d'une certaine religiosité.
Quel changement pourrions-nous voir à la suite de sa disparition qui va sans doute affecter le paysage médiatique et politique américain?
Financier, chrétienne, etc., est en train de s'effilocher parce que, avec des médias comme Fox, qui sont devenus les phares, les moyens d'expression privilégiés de ce type d'idéologie, c'est de plus en plus la politique qui est mise en avant et la religion qui aide à assurer des positions politiques, plus que ce n'est, disons, l'inverse. Là où il essayait de forger une certaine culture religieuse et de les appliquer sur le plan politique. Donc il y a une sorte d'inversion, de l'inflexion en quelque sorte. Deuxièmement, le paysage médiatique lui-même est en train de changer fondamentalement. Donc un individu charismatique devant un micro qui capture l'audience pour des heures et leur fait faire des choses qu'il leur commande, je pense que c'est de plus en plus refusé. En tout cas, les générations récentes ne vont pas suivre ce genre de procédé dans le choix politique. Donc, il y a aussi le vocabulaire même, le vocabulaire biblique qui est directement de la Bible avec une sorte de calme et d'assurance et d'utilisation de conventions sur le plan de la grammaire et du vocabulaire, du lexique. Ça aussi, ça va disparaître de plus en plus des médias. Donc, la partie prosélyte chrétienne évangéliste va avoir des problèmes pour s'adapter. Ensuite, maintenant, la diversité des sources d'opinion et la compétition entre les sources d'opinion, et en particulier l'éclatement de la ferveur religieuse, la baisse même de la ferveur religieuse, je pense que joue en défaveur pour l'émergence de notre pacte de Boston. Je ne pense pas que ce soit possible, en tout cas dans le contexte actuel. Je pense que les partis, il ne va pas être remplacé.
Et quel impact a-t-il eu sur les conservateurs et les chrétiens évangéliques américains?
Alors, il a unifié leur alliance en quelque sorte, et en particulier, comme j'ai dit, leur alliance au sein du Parti républicain. Et donc, le Parti républicain et ses tanks, et qu'il est possible de mettre sur la table donc, les desiderata de ces évangélistes chrétiens. Mais en même temps, il y a un problème, disons, parce que cet électorat vieillit, cet électorat est trop unicolore en quelque sorte, et de plus en plus ne représente pas les États-Unis. Et en tout cas, c'est ce qui explique que les conservateurs peuvent élire des gens dans des comtés ruraux. Ils sont de plus en plus incapables de gagner des villes. Et à l'échelon des élections nationales aux États-Unis, il y a très peu de chances qu'ils parviennent à avoir des victoires éclatantes s'ils continuent la façon de faire de la politique, la manière dont ils la font actuellement. Et donc, on peut dire aussi que dans ce cas-là, la moral majority, cette sorte de pragmatisme prosélyte évangélique a mal vieilli, ou plutôt a vieilli et ne correspond pas à ce qu'on peut appeler l'âge, un élan un peu plus jeune de l'électorat et de l'audience des populations américaines.
Alors, outre son rôle dans les médias et la politique, Pat Robertson était également impliqué dans des actions caritatives, notamment à travers Operation Blessing, c'était son organisation. Pourriez-vous nous en dire plus sur ces actions caritatives et leur impact, brièvement?
Alors, Pat Robertson est un contemporain de John Kennedy et autres, et de Lyndon Johnson. Donc, il y a cette sorte de toute cette génération qui, effectivement, pense qu'il est légitime pour les États-Unis de penser aux autres, de penser en dehors du précaré américain et d'être sous l'influence. Évidemment, l'influence politique dans le cadre de la guerre froide et après, mais aussi l'influence de la manière dont les Américains vivent leur chrétienté, parce que effectivement, au plan international, on peut dire que la conception américaine de la façon d'être chrétien a été battue en brèche aussi bien par l'idéologie du Vatican II, comme ça a été battue par les idéologies de libération nationale. Et donc, il fallait un contrepoids. Un contrepoids qui ne soit pas fondamentalement, pas disons, un bras armé de la politique extérieure américaine. Et dans ce cas-là, il a réussi effectivement à avoir une influence extérieure qui n'est pas liée à l'influence américaine stricto sensu. Et donc de créer une sorte d'international des sensibilités évangéliques. Et dans ce cas-là, c'est pourquoi sa politique de la main ouverte et d'aide dans beaucoup de pays du tiers monde va rester un élément positif en sa faveur.
Professeur Mohamed Mbodj, merci pour cette discussion approfondie sur Pat Robertson et son impact durable aux États-Unis et même dans le monde. Merci beaucoup pour toutes les explications données et votre contribution. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Bonne soirée.
Fin de ce dialogue des religions. Michel Claire-Joseph a assuré la mise en onde. Eric Manirakis a été avec vous. Excellente soirée à vous tous et à la prochaine.